La coalition des fondations françaises pour le climat présente Climat et ODD, les fonds et fondations en action.
Témoignages de fonds et fondations sur leurs engagements pour le climat.
Une collection de podcasts originaux produite par le Centre français des fonds et fondations avec le soutien de la Fondation de France.
Et réalisée par Écran Sonore.
Quel rôle pourraient ou devraient jouer les fonds et fondations dans les initiatives pour accélérer les transitions, favoriser la résilience des personnes et des sociétés les plus vulnérables face aux défis du changement climatique, tant qu'il est encore temps?
Puisqu'il est encore temps.
C'est ce que cette série de podcasts originaux propose de faire entendre.
Et c'est tout l'enjeu de la Coalition française des fondations pour le climat, la CFFC.
Créée en novembre 2020 par le Centre français des fonds et fondations, piloté par la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation de France, le Fonds Lire et Sourire et la Fondation Terre Solidaire. Plus d'une centaine d'entre elles ont rejoint cette initiative salutaire et signé le manifeste proposé par la CFFC. Il s'adresse à tous les types de fonds et fondations, quel que soit leur objet, leur forme juridique et leur taille.
Si vous souhaitez rejoindre ce mouvement ou en savoir plus sur les actions des fondations, cette collection inédite de podcasts est faite pour vous. 6 épisodes pour 6 piliers du changement contenus dans le Manifeste pour le climat. Épisode 5.
Agir pour le collectif.
Vive la communauté des fondations et son engagement pour le climat.
Quelle joie, cœur.
Agir ensemble plutôt que agir individuellement.
Les ODD nous invitent à faire ensemble. Ils rendent à la fois nécessaire le fait de coopérer et ils sont en même temps un puissant levier pour le faire.
Le collectif, c'est la clé de réussite de demain.
Système.
Travailler ensemble.
Coopération.
Ensemble. Toujours ensemble. On n'y arrivera pas sans ça.
Évidence.
Solidarité.
Globale.
Co-construction.
Dialogue.
Ensemble.
Parce que c'est le sens de l'intérêt général et de l'action des fondations.
À toutes et à tous, bonjour, je suis Jean-Marc Potra, je suis délégué général du Centre français des fonds et fondations. Je vais vous présenter maintenant le cinquième podcast de la collection du Centre français des fonds et fondations consacré au climat. Et ce podcast est dédié au cinquième pilier du manifeste consacré à l'action collective. L'objectif, vous éclairer sur comment agir pour le collectif au travers des ODD. En signant le manifeste pour le climat, vous, fonds et fondations, vous vous engagez à contribuer collectivement à valoriser les actions que nous réalisons auprès de vos parties prenantes, à mobiliser des ressources pour le changement climatique et à vous inscrire ensemble dans le débat public pour être force de proposition. Comment le Centre français des fonds et fondations agit au quotidien pour vous aider dans ce travail? Le premier point, nous organisons des réveils climat, des rendez-vous mensuels qui vous permettent d'entendre des spécialistes du climat et vous sensibiliser au fonctionnement de ces enjeux. Nous avons également créé des groupes de travail, un groupe sur la finance, un groupe sur les ODD, un groupe sur les bonnes pratiques, un groupe sur les formations. Tout ça doit vous encourager à agir en collectif. Bien évidemment, nous travaillons avec nos pairs en Europe et à l'international. Cette collaboration est stratégique. Nous sommes engagés dans des travaux de recherche avec un partenariat avec l'ESSEC, Anne Meunier, une docteure qui suit l'ensemble de la réalisation de la coalition pour identifier comment cette coalition peut être reproduite. Et enfin, bien évidemment, nous partageons des ressources tout au long de l'année sur notre site ou par des études. Je vous souhaite une excellente écoute avant de vous rejoindre dans les rangs de la coalition des fondations françaises pour le climat.
Axel Davzac, agir pour le collectif. Où on mesure, et on va mesurer grâce à votre intervention, l'importance du réseau. Première question, Oriane.
Justement, en ce qui concerne le monde de la philanthropie, en quoi l'adage « l'union fait la force » est-il d'autant plus vrai ?
Il faut remettre un tout petit peu les choses en perspective. Face à l'enjeu climatique, il est bien évident que le monde de la philanthropie n'est pas à la mesure de l'enjeu et qu'il faudra d'abord des efforts majeurs des États et des entreprises si on veut collectivement y arriver. Donc la philanthropie ne résoudra pas toute seule tous les problèmes. Ce n'est pas son rôle et elle n'en a pas les moyens. En revanche, la philanthropie, elle a cette force très particulière, c'est que c'est un acteur indépendant dont le seul objectif est de répondre à un enjeu d'intérêt général. Et en ce sens, elle travaille de manière beaucoup plus naturelle en collectif, puisqu'elle n'a pas d'enjeu individuel, soit d'entreprise, soit politique pour un État. Elles sont donc beaucoup plus enclines à partager les connaissances, à partager les savoir-faire. C'est aussi le sens de cette coalition. C'est l'idée de mettre à disposition des ressources, des savoir-faire, des expériences pour que toutes celles et tous ceux qui veulent puissent s'en emparer. Et là, l'Union fait la force et est extrêmement puissante. Pourquoi ? Parce que collectivement, on peut s'appuyer sur une fondation qui a développé une expertise sur un sujet donné pour aller soit prendre le savoir-faire auprès d'elle, soit lui déléguer. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons alors au sein du réseau de la Fondation de France plusieurs fondations qui travaillent à la fois sur les questions d'éducation et d'environnement. Et trois fondations abritées à la Fondation de France ont eu l'idée, se sont aperçues, notamment dans les échanges qu'elles ont au sein de la Fondation de France, qu'elles travaillaient toutes les trois sur comment sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la nature, très simplement. Et donc, elles se sont dit, bon, on va faire ensemble, puisqu'on soutient chacune nos projets de notre côté, c'est idiot. Et donc, elles ont créé un programme qui s'appelle « Tous dehors », où elles ont décidé de mutualiser leurs expertises, leurs connaissances, finalement, des tissus associatifs, leur savoir-faire aussi pour identifier et sélectionner les projets, et lancer un appel à commun. Et elles ont sollicité la Fondation de France pour deux choses. D'une part, pour venir soutenir cette association nouvellement créée qui s'appelle Tous dehors, et nous l'avons soutenue à travers un programme de la Fondation de France qui s'appelle Inventer demain et qui vient en fait aider les associations pour se structurer, pour s'organiser, pour finalement être en état de monter ce projet associatif. Donc nous les soutenons à la fois financièrement et en accompagnement, en mécénat de compétences. Et la Fondation de France a décidé aussi de venir rejoindre cet appel à commun. Ça produit quoi ? Ça produit qu'au lieu d'avoir quatre petits financements éparpillés à quatre endroits, on a un seul collectif, Tous dehors, qui va venir soutenir dans toute la France tous les projets qui vont permettre à des enfants d'aller faire la classe dehors. Ça, c'est la première chose. Donc, vous gagnez du temps, de l'argent, de l'expérience. Et la deuxième chose, c'est qu'ensuite, nous pouvons rassembler, une fois par an, tous les projets qui ont été soutenus à l'échelle nationale pour qu'entre eux, ils puissent partager leurs réussites, leurs échecs. Et finalement, comment arriver petit à petit à faire en sorte que tous les enfants de notre pays puissent bénéficier de ce dispositif. C'est ça, l'Union fait la force. C'est on va venir chercher chez chacun ses atouts, ses expériences, ses compétences pour les mettre en commun, tout simplement.
Est-ce que cette essence dont vous venez nous parler, c'est aussi ce que vous essayez de créer à travers la coalition ?
Absolument. C'est exactement le même dispositif qui est poursuivi au sein de la coalition, avec l'idée de se dire que certaines fondations, comme la Fondation de France, mais comme d'autres, hein, qui sont à l'initiative de cette coalition, ont des outils, ont développé déjà des pratiques et des expériences. Si vous voulez, quand la Fondation de France a lancé en interne son agenda 21, nous avons décidé, à la suite de la COP21, de nous interroger sur nos pratiques internes dans nos modes de fonctionnement en tant qu'organisation.
À tous les niveaux, j'imagine le déplacement de chacun de vos employés.
Depuis les déplacements, depuis la gestion des déchets, depuis les types d'éclairage, enfin voilà, tout ce qui peut. L'agenda 21. Comment a-t-on fait à la Fondation de France ? On a créé un groupe de travail en interne et puis chacun est venu. Comment on fait de la sobriété numérique ? Comment on peut gérer mieux les déplacements ? Et mes achats de papier, comment pourrais-je les optimiser, les faire différemment ? Donc nous avons travaillé pendant plus d'un an, nous avons mis en place un plan d'action. Tout ce travail-là, il a pris du temps à la Fondation de France. Autant le partager. Nous avons passé en revue toutes nos activités, toutes nos actions. Nous avons identifié des pistes pour réduire notre empreinte carbone, pour modifier nos modes de faire. quand on part de zéro, c'est un investissement qui peut être très lourd. Or, nous l'avons fait, autant le partager. C'est aussi ça le sens de la coalition, c'est déjà partager ses bonnes pratiques, partager ses expériences. Ce que nous avons fait avec le collectif Tous Dehors, il faudrait que nous puissions aussi, quand il sera un peu plus avancé, le partager avec d'autres fondations. Soit que d'autres fondations aient envie de rejoindre ce collectif pour lui donner plus de force, soit la méthode utilisée pour travailler ensemble, elle peut être dupliquée à de nombreuses autres initiatives. Donc l'idée de cette coalition, c'est vraiment ça.
Tout à l'heure, vous avez dit que le monde de la philanthropie ne pouvait pas tout régler, qu'il y avait besoin d'implication aussi politique de la société civile. Il y a des fondations qui agissent en ce sens, qui se positionnent quasiment comme s'ils faisaient du plaidoyer. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner sur cette idée d'agir pour le collectif en se positionnant avec cette envie de faire du plaidoyer ?
Le plaidoyer n'est pas l'approche la plus utilisée à la Fondation de France parce que nous avons une conviction, c'est que c'est en travaillant avec l'ensemble des parties prenantes sur un sujet donné que l'on fait bouger le plus vite les mentalités et surtout qu'elles sont convaincues sans générer d'opposition forte. Les fondations, elles ont un outil majeur aussi, c'est que elles sont neutres. Nous ne défendons aucun parti politique, nous ne défendons aucune religion. Nous sommes des acteurs neutres. Notre seule caractéristique, c'est que nous défendons l'intérêt général. Et donc, à la Fondation de France, quand on soutient un projet et quand on travaille sur un sujet donné, nous avons toujours et en permanence le souci d'impliquer les parties prenantes concernées par le problème. En l'espèce et dans le cas du climat, je vais vous prendre un autre exemple qui est d'ailleurs porté par une fondation abritée à la Fondation de France, qui est portée par Philippe Poncin, qui est une fondation qui nous a rejoint l'année dernière, avec l'idée d'arriver à préserver la biodiversité sauvage dans les Alpes. C'est un sujet qui est compliqué. Je vais vous prendre un exemple. La question des loups qui ont réapparu dans notre pays et notamment dans les Alpes. Les loups, c'est très beau pour les touristes ou les vacanciers s'ils restent à bonne distance et que ça ne leur fait pas peur à regarder dans la montagne. En revanche, pour les bergers, c'est un sujet majeur. Pourquoi ? Parce que les loups viennent manger les troupeaux. Donc comment travaillons-nous dans ces cas-là ? Et ça, c'est une approche que nous utilisons systématiquement, c'est-à-dire que nous allons commencer par réunir les bergers, les habitants, les collectivités territoriales qui gèrent aussi les flux de touristes, qui sont un sujet important pour la préservation des Alpes, en disant comment peut-on organiser finalement cette cohabitation heureuse entre les bergers, les loups et les touristes, puisque c'est ça le sujet. Et ça marche très bien. La seule chose, mais je mets des guillemets à seul, c'est qu'en fait, il faut juste aider les bergers à faire en sorte que leurs troupeaux ne soient pas attaqués la nuit. À partir de là, les bergers n'ont plus d'objection à ce que les loups soient là si leurs troupeaux sont préservés. Donc les fondations, ça sert à ça, simplement d'abord à engager le débat. Et fondamentalement, je pense que personne n'est contre la lutte pour le réchauffement climatique, si vous voulez. Personne n'a envie que la planète se réchauffe et que tout parte de travers. Le sujet, c'est comment faire comprendre et comment aider les gens à faire en sorte que les évolutions de comportement, de pratiques et de modes de fonctionnement ne leur semblent pas impossibles. Il faut proposer des pistes, il faut proposer des solutions.
Bonjour, je suis Marie-Stéphane Maradex, déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso.
Depuis le début, vous avez compris qu'on ne pouvait pas travailler seul, que les problèmes sont tellement interreliés qu'un seul acteur ne peut pas tout régler.
Exactement. Alors nous avons effectivement développé une culture, on va dire, du partenariat et de la coopération à la Fondation. J'ai donné un exemple. On a beaucoup travaillé dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune il y a à peu près un an et demi. Et nous avons travaillé avec des partenaires, des fondations européennes, sur à la fois le soutien à des organismes de terrain militant portant le soutien pour une politique agricole commune plus verte, mais également sur la question du plaidoyer en soutenant les têtes de réseau et les plateformes d'acteurs d'ONG hein, qui travaillent sur ces questions. Et enfin, par des publications, on a publié dans les grands pays agricoles de l'Europe, soutenus par de l'argent de la philanthropie, un atlas qui reprenait en fait les résultats de la PAC précédente. Voilà, donc c'est des exemples, si vous voulez, de travail en commun que nous pouvons mener. Et bien entendu, la coalition hein, que nous finançons, la Fondation Carasso finance les coalitions climat en France, à travers le Centre français des fondations, en Espagne, à travers l'Association espagnole des fondations, mais également au niveau européen, donc FILEA, hein, qui porte le mouvement de la coalition climat au niveau européen, et au niveau international avec l'association WINGS, puisque le manifeste maintenant a été signé par plus de 500 fondations dans le monde qui portent ces enjeux au sein de la philanthropie.
C'est toute cette interaction-là entre ces différents éléments qui permet de viser l'impact et le changement systémique.
Exactement. C'est la combinaison à la fois du soutien des acteurs qui ont des points de vue différents qui vont renforcer l'impact et la transformation que nous recherchons à travers nos deux axes. Tout à fait.
Bonjour, Élodie Roland, adjointe déléguée générale de la Fondation RTE.
Un des programmes fondamentaux au sein de la Fondation RTE, c'est Entreprendre la ruralité. En quoi était-il important pour votre fondation d'orienter ses actions en direction des plus vulnérables et de la transformation des territoires ?
Depuis plusieurs années, on réfléchit à comment avoir plus d'impact, plus rapidement, avec d'autres fondations, puisque les enjeux des territoires ruraux sont si importants que seuls, de toute façon, on ne peut pas y répondre. Donc on a réfléchi avec d'autres fondations à comment on pouvait monter ce qu'on appelle des programmes d'impact collectif dans le jargon du secteur, c'est-à-dire comment on conçoit un programme qui répond à des enjeux des territoires ruraux et pour lesquels chacune de nos fondations a une expertise particulière à apporter pour accompagner ces porteurs de projets et ces territoires. Et c'est ce qu'on a fait avec donc la Fondation Entreprendre, qui a développé l'appel à projet Entreprendre la ruralité, qui a été porté initialement par la Fondation Entreprendre avec d'autres fondations. Donc le fonds de dotation Terre et Fils, la Fondation AG2R La Mondiale et nous, la Fondation RTE. L'objectif de cet appel à projet, donc, c'est de dynamiser les territoires ruraux en accompagnant l'émergence de dispositifs qui permettent de soutenir la création et le développement d'entreprises qui ont un impact social, économique, environnemental, local. Il y a 4 lauréats qui ont été retenus et ces lauréats maintenant sont accompagnés. C'est un programme qui est long, qui prend du temps parce que ça prend du temps de monter un programme, de monter un incubateur dans les territoires ruraux, d'identifier les besoins du territoire, de trouver les bénéficiaires de ce dispositif-là et de les accompagner à monter en compétences. Et en fait, il faut beaucoup de clairvoyance, je trouve, dans le secteur, de se dire que l'échelle temporelle nécessaire pour que des projets naissent, fassent leurs preuves, aient un impact, c'est du temps long. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé dans cet appel à projet. C'est parce que la temporalité était vraiment pensée pour laisser le temps aux porteurs de projets d'avancer. Et on ne cherche pas les résultats tout de suite, on ne cherche pas à démontrer la preuve tout de suite. Ils sont accompagnés. Le programme est évalué en permanence. Il y a une démarche d'évaluation d'impact social depuis le début pour voir, un, si les projets portent leurs fruits, et deux, si cette démarche de dynamique d'impact social, elle permet d'avoir les effets qui étaient attendus au départ. Et c'est ce vers quoi on essaie de tendre de plus en plus, d'aller sur ces dynamiques d'impact collectif avec d'autres fondations, parce que les besoins des territoires ruraux sont immenses. Nous sommes une petite fondation, et on veut pouvoir continuer à accompagner toutes ces dynamiques-là.
Et parmi ces 4 projets, vous en avez un qui représente au mieux cette volonté de dynamiser les territoires ?
Alors oui, il y en a 2 même, parce que 2 des projets qui font partie de l'appel à projet finalement étaient des projets que nous-mêmes accompagnons par le passé. Il y a la Chartreuse de Neuville, qui est donc un établissement dans le nord de la France, une ancienne chartreuse qui a été reprise par une fondation pour redynamiser le territoire et notamment contribuer à la lutte contre l'illettrisme, qui est très important dans le Montreuilois. Et donc la restauration de ce bâti, donc ça c'est le projet d'origine, sert de support pour remettre les gens à la lecture, les sensibiliser aux mots, à la lettre, à la graphie, donc en faisant un travail de cartographie de toutes les inscriptions qui sont sur les murs de la Chartreuse. Et l'appel à projet de la Fondation Entreprendre, donc pour lequel la Chartreuse de Neuville a été lauréate, consiste à développer un tiers-lieu, un incubateur sur le territoire du Montreuil porté par la Chartreuse pour accompagner ces dynamiques entrepreneuriales sur le territoire. Donc pour nous, c'est aussi une belle réussite de voir que ce projet-là grandit au fur et à mesure. C'est un projet très ambitieux auquel on croit beaucoup et on est ravis qu'il puisse être accompagné par Entreprendre.
Je suis Sylviane Rad, directrice du fonds de dotation Vital Stratégie.
Au sein de Vital Stratégie, vous vous positionnez comme un pôle d'expertise auprès des collectivités car vous travaillez directement avec les municipalités dans la gestion des projets que vous financez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, alors je vais vous raconter comment on travaille. En premier lieu, on est redistributeur de fonds qui proviennent de la fondation Bloomberg. Et cette fondation, elle opère d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle crée des partenariats très larges avec des experts du monde entier. Je vous donne un exemple sur la sécurité routière. On a des partenaires comme l'OMS, la Banque mondiale, le World Resource Institute, Hopkins School of Public Health. Donc elle va créer, la fondation elle-même crée des partenariats sur un sujet précis. Et donc nous, Vital Strategy, nous sommes un des partenaires et nous avons un rôle spécifique dans ces grands partenariats. Et ce rôle spécifique, c'est de redistribuer les moyens, d'être en tête de file du lien avec les municipalités et de gérer la collaboration partenaire-ville-fondation et de mettre en œuvre ces programmes. Donc, on arrive sur notre modèle à travailler avec les collectivités en direct. Alors, la première chose, c'est que les villes sont invitées à participer à nos programmes, sont sélectionnées sur la base du fardeau sanitaire, on va dire. C'est-à-dire que s'il y a un gros problème, Bloomberg Philanthropies prend la liste et nous, en même temps, on travaille avec eux pour prendre la liste des pays qui sont le plus affectés, de regarder les villes qui sont les plus affectées. Donc on est dans les plus grandes villes du monde, dans les pays à faible et moyen revenu. Et d'après ça, on invite des villes à participer à un programme. Donc c'est assez encadré, hein, par qui me semble être un modèle assez intéressant pour d'autres fondations particulièrement. Et donc à partir de là, Bloomberg Philanthropies finance pour 5 ans au moins, en général, et renouvelle. Donc il y a un engagement sur le long terme, en comprenant bien que pour changer la donne sur une thématique, que ce soit la pollution de l'air, ou que ce soit la sécurité routière, ou que ce soit la lutte contre les maladies non transmissibles, c'est pas en deux ans qu'on va faire quelque chose. Parce que ça demande de regarder où en est la ville, de l'accompagner sur des choses comme est-ce qu'ils ont les données nécessaires pour évaluer où ils en sont. Dans la plupart des pays à faible et moyen revenu, c'est même pas là. Quand on parle, par exemple, de nombre de morts par rapport à un facteur de risque, la plupart des pays à faible et moyen revenu n'ont même pas de registre d'état civil. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas de quoi les gens meurent. Donc nous, on a une expertise, on apporte cette expertise pour booster le système de veille sanitaire, d'enregistrement des décès, de commencer à documenter. Donc on apporte ce genre d'expertise et avec d'autres partenaires qui vont contribuer dans leur expertise. Donc Bloomberg Philanthropies va donner les moyens pendant 5 ans renouvelables pour que une dizaine de partenaires techniques internationaux viennent appuyer une ville et fassent avancer ces villes là où elles en ont le plus besoin.
En quoi le fait d'aider à renforcer les politiques publiques est-il une voie d'avancée pour le bien commun et peut-être même une nouvelle voie d'action pour le monde philanthropique ?
Peut-être qu'on a une vision pays riches, pays plus pauvres. Et là, je pense que évidemment, dans des pays où l'État est fort, où il y a des institutions, où tout est organisé, il y a des cadres réglementaires, il y a tout un arsenal de personnes et d'organisations qui développent le cadre sur différents sujets, comme le climat, par exemple. Donc ça, pour les pays riches, c'est déjà là. Mais pour les pays à faible et moyen revenu, on manque de tout. On manque d'expertise dans des domaines, de connaissances, de moyens humains dans les gouvernements. Parfois, dans le ministère de la Santé, il y a une personne qui s'occupe de 15 000 portfolios qui changent de la tuberculose aux maladies non transmissibles. Alors, il faut faire la pollution d'air, ils ne peuvent pas. Donc, si vous voulez, pour nous et pour la Fondation Bloomberg, hein, je pense que c'est un des. Avec la Fondation Gates aussi, qui s'investit aussi auprès des gouvernements, c'est d'essayer de donner des moyens et du soutien à des gouvernements qui, pour rééquilibrer un petit peu avec les ONG, qui sont très actives et qui ont souvent beaucoup de soutien, mais les gouvernements moins. Donc on se retrouve avec des ONG experts parfois dans les pays, mais pas beaucoup de moyens au niveau des gouvernements. Donc c'est peut-être une volonté d'un peu rééquilibrer ça, mais c'est surtout un souci d'efficacité. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir un cadre de politique publique, donc réglementaire ou programmatique, pour pouvoir organiser l'action d'un pays ou d'une mairie ou d'une ville, en fait. Donc on sait que c'est de là que ça part si on n'a pas les cadres et on n'a pas les connaissances et l'expertise dans les gouvernements. On n'a aucune chance de réussir si c'est laissé à la société civile qui a un énorme rôle à jouer.
Directeur de Terre Agir, et je vais vous parler aujourd'hui du pilier 5 Agir pour le collectif.
Dans les orientations de votre association, il y a une notion qui est très importante, c'est le faire ensemble. Comment vous expliquez ça ?
Pour beaucoup de raisons. Comment être simple sur un sujet comme celui-là ? D'abord, au sommet de Rio, en 1992, il y a quelque chose de très important qui a émergé, parce que ça faisait quand même déjà des décennies hein, qu'on avait des rapports sur l'environnement et qui nous disaient que ça allait pas. Hein. Quelque chose de nouveau pour moi a émergé en 92, c'est l'idée que pour résoudre les problèmes complexes des enjeux de l'environnement, on pouvait le faire que à plusieurs, en réunissant les parties prenantes. Ça, ça a commencé à ce moment-là et c'est important. Nous avons absolument besoin de casser les silos et d'apprendre et le dialogue et la coopération et l'engagement collectif avec les gens dans les autres silos pour que ça ne soit plus des silos tout simplement. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'apprendre l'engagement collectif, c'est-à-dire de porter des choses où on apprend à faire ensemble. Il ne suffit pas de le dire, hein, ça fait appel à beaucoup de choses, beaucoup de travail, ne serait-ce que l'écoute par exemple, hein, ce qu'on apprend dans l'école et dans les éco-écoles. Faire des projets ensemble, c'est écouter les autres, trouver sa place, mais laisser de la place aussi. Donc c'est tout ça qui est derrière. Et quand on a créé les savoir-être, les savoir-faire qui permettent de monter et de porter des choses collectivement, là, on va beaucoup plus loin. Et on peut entrer dans la résolution de problèmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, d'apprendre en fait à rentrer dans des optiques collectives. Et donc c'est ce qu'on fait dans nos projets un peu partout, dans Éco-École, dans Pavillon Bleu, dans Clé Verte. On crée du lien en fait, et on suscite le lien, on suscite le travail ensemble. C'est extrêmement valorisant, hein, tout le monde nous le dit, c'est parfois un peu difficile, mais en fait dès qu'on a quitté l'obstacle apparent de faire les choses ensemble, en fait c'est extrêmement gratifiant.
Et pour terminer, selon vous, vous parliez de la pensée en silo, qui était problématique. Selon vous, qu'est-ce qui a mené à ce qu'on considère les choses de cette manière-là pendant toutes ces années ?
Alors après, c'est un peu documentaire ce que je vais dire. J'ai lu beaucoup de choses sur le fait que le monde cartésien nous a été extrêmement utile pour comprendre le monde. On découpait les choses, on isolait les phénomènes. Pour comprendre une horloge, vous la démontez entièrement, vous regardez ses rouages, très bien, mais vous avez perdu la globalité de du phénomène. Donc peut-être qu'à une époque, les sciences se sont construites justement pour analyser finement les choses en les isolant. Ça a certaines vertus, indéniablement. Mais ça a aussi des limites lorsqu'on est dans la compréhension justement des interactions. Et en fait, aujourd'hui, on est caractérisé par un très très grand nombre d'interactions. Tout est interaction. Donc on doit apprendre à utiliser les outils scientifiques de l'isolement de l'horloger quand c'est nécessaire, mais ensuite de réinterroger tout cela dans l'interaction de l'horloge, par contre, avec son environnement global. Sinon, on n'a pas accès à la réalité des phénomènes.
Je suis Vaya Touya, déléguée générale de 4D.
Quels seraient les axes de développement et d'innovation qui seraient intéressants pour l'horizon 2030, spécifiquement au secteur philanthropique ?
Au niveau de la philanthropie, il me semble aujourd'hui qu'ils ont un travail de terrain très important. Et on voit que pour cet horizon 2030, il y a énormément de nouveaux projets d'innovation qui se passent sur le terrain. On les voit. Il y a des fabriques des transitions, il y a un certain nombre de pépites qui sont toutes là. Maintenant, comment est-ce qu'on les relie ? Et comment est-ce qu'on s'assure qu'on ne reste pas dans l'entre-soi ? Ce qui a toujours été en fait la difficulté des acteurs du développement durable. Donc, pour moi, la philanthropie aujourd'hui a un gros enjeu de maillage et de reliance. Et ce maillage et cette reliance, elle nécessite un travail de long terme, d'accompagnement du changement, et comme je le disais, de mobiliser les sciences sociales et de pouvoir parler à hauteur des personnes, sachant que si vous voyez par exemple au niveau des jeunes, on peut entendre de plus en plus de jeunes diplômés s'intéresser à la question du climat, mais est-ce qu'il faut forcément avoir fait un bac plus 5 pour arriver à ces enjeux-là ? Donc comment s'assurer que partout, et notamment les personnes les plus vulnérables, qui auront peut-être la moindre capacité à s'adapter, peuvent dès à présent être aujourd'hui accompagnées. Et donc, sur du long terme, des fois ça prend 3 ans, des fois ça peut prendre 5 ans, pour 1. Avoir la connaissance, 2. S'assurer que sur des changements de pratiques qui peuvent être très compliqués, notamment sur les transports ou autres, elles aient l'impression effectivement d'être dans ce transfert de satisfaction et pas dans de la privation. Et ça, je pense que c'est un gros enjeu. Le deuxième gros enjeu, il est sur la confiance. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui partent et puis tout d'un coup... Ah ben non, en fait, c'est du greenwashing, donc l'ODD washing est aussi possible. Donc, quand on a un référentiel comme les ODD, est-ce qu'il est bien utilisé ? Est-ce que les indicateurs derrière sont des indicateurs probants ? Et est-ce qu'on n'utilise que les indicateurs qui nous intéressent ? Et est-ce qu'on regarde aussi les indicateurs négatifs ? Et c'est là où je trouve qu'il y a aussi un travail de la part de la philanthropie qui peut être très intéressant. Quand on commence à regarder si tel projet contribue aux objectifs de développement durable, il peut y avoir une analyse micro d'un projet pour savoir comment effectivement il augmente son action par rapport au développement durable. Je vais prendre un exemple de ferme urbaine qui était dans le 15e. On regarde cette ferme urbaine, on met le projet au milieu de la roue des objectifs de développement durable et on se dit, bon, bah forcément, il répond à l'objectif 2 sur l'agriculture et la faim. La pauvreté, est-ce que vous avez pensé à une péréquation par rapport au panier qui pourrait être utilisé ? Et puis, la question du genre, oh ben non. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de se poser la question de l'égalité femmes-hommes dans ce projet ? Ah oui, tiens, ça pourrait être intéressant, d'autant qu'à côté, il y a une association qui s'occupe d'eux. Et c'est là, en fait, où non seulement ils ont pu augmenter l'impact de leur projet, mais ils ont commencé à travailler avec l'association d'à côté. Et donc, je pense que la philanthropie peut travailler effectivement plus sur ce maillage à l'échelle méso. Et après, vous avez l'échelle macro, comme je le disais, qui est finalement, si on regarde l'impact vers lequel on veut aller, est-ce qu'on est sûr de notre impact, en fait ? Est-ce qu'on ne va pas créer aujourd'hui les conditions des erreurs qu'on va devoir récupérer dans 4-5 ans, parce qu'on aura fait des choses sur le climat, mais on aura oublié les inégalités. Les Gilets jaunes nous ont rappelé ça. Pourtant, on avait déjà cette grille de lecture. Donc, en fait, c'est intéressant aujourd'hui, je pense, que la philanthropie soit moteur sur le fait qu'on soit dans une transition juste, qui s'occupe de tout le monde, et qu'à côté des pépites qu'il faut faire sortir parce qu'on a besoin d'être inspiré, qu'il y ait tout ce travail d'accompagnement et de maillage sur les territoires et qui puisse renforcer notamment au niveau de l'éducation toute cette question du changement culturel et aussi de la confiance parce qu'il y a une logique de redevabilité et puisqu'on a des indicateurs et puisqu'il y a des fonds et puisqu'il y a des financements, s'assurer effectivement que la philanthropie arrive avec un référentiel sûr et qui permettent de renforcer les impacts vers lesquels on veut aller.